Merci d'écouter RFI. Il est 1h à Paris, 2h à Goma.
Mathis Limano.
Le conflit dans l'est de la RDC au cœur d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York ce dimanche. Des éléments du M23 seraient déjà dans certains quartiers de Goma où l'on entend selon de nombreux témoignages des tirs sporadiques jusqu'au centre de la ville. Un habitant nous raconte juste après les titres. Également à la une, la Jordanie et l'Égypte rejettent l'idée d'un déplacement forcé des Palestiniens de la bande de Gaza. Donald Trump a émis cette idée de les évacuer vers ces deux pays afin, je cite, de faire le ménage. Les États-Unis qui ont coupé le principal de leur aide humanitaire dans le monde, de quoi franchement inquiéter en Ukraine, toujours en difficulté sur le champ de bataille. Et puis l'Irlande, après le passage de la tempête Eowyn, on y vient dans ce journal. Le M23 se rapproche donc de Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu en RDC, selon la chef de la mission onusienne du pays. Des détonations entendues encore ce dimanche soir dans la ville, selon plusieurs témoins. La population de Goma reste terrée dans les maisons, inquiète et dans l'attente, comme cet habitant du centre-ville basé vers l'hôpital de la charité maternelle joint par Guillaume Thibault.
Vraiment, c'est de la crainte parce que les crépitements ont commencé depuis 16 heures environ. 16 heures jusqu'à maintenant, 0 heures. Ça crépite de partout. Tirs d'armes, oui, des armes automatiques, du genre. Crépitement énorme. Vers 18 heures, et puis après, ils ont presque cessé. C'est presque dans tout le centre-ville parce que ça tire, donc, on tire, on pose. On tire, on pose, du genre pareil. Nous sommes dans les maisons parce qu'il y a la peur. Si tu sortais dehors, vraiment impossible, vraiment. Il faut rester dans la maison, ne pas sortir. C'est ça. On ne sait pas qui est en ville, si c'est nos soldats FARDC ou M23 vraiment.
Ce conflit dans l'est de la République démocratique du Congo était ce dimanche au cœur d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU à New York. New York, où il est 19h02, les États-Unis de Donald Trump qui jettent de l'huile sur le feu à Gaza. Le président américain s'est dit favorable à un nettoyage total dans le territoire palestinien, impliquant le déplacement forcé des 1 500 000 Gazaouis vers l'Égypte et la Jordanie. Amman et Le Caire ont catégoriquement rejeté l'idée. Des déclarations fracassantes qui vont dans le sens des alliés d'extrême droite de Benjamin Netanyahou, partisans d'une recolonisation de Gaza. Jean-Paul Chagnolo nous livre son analyse. Il est président de l'Institut de recherche et d'études sur la Méditerranée Moyen-Orient.
C'est une déclaration qui est, du point de vue du droit international, absolument aberrante, évidemment. Sauf que venant d'un personnage qui est président des États-Unis, ça pose plein de questions. Est-ce qu'il est en capacité de le faire? Ce qui est sûr, c'est que ça rejoint les positions de la droite, de l'extrême droite israélienne, qui depuis très longtemps rêve en fait d'un vaste transfert de population palestinienne vers l'Égypte pour les uns, vers la Jordanie pour les autres. Et donc ce projet, il est dans la tête de beaucoup de dirigeants israéliens. Donc pour eux, évidemment, c'est un effet d'aubaine extraordinaire. Du côté du monde arabe, évidemment, pour les Égyptiens et les Jordaniens, c'est tout à fait inacceptable pour mille raisons, et la plus évidente, c'est la sécurité de l'Égypte et de la Jordanie en particulier. Donc il n'est pas question qu'ils acceptent, et en même temps, je serais tenté de dire que tout est possible, notamment avec l'Égypte, parce que l'Égypte est très largement dépendante des États-Unis.
Des propos recueillis par Daniel Vallot. 6 nouveaux otages vont être libérés cette semaine en 2 temps. D'abord jeudi, puis samedi. C'est le bureau du Premier ministre israélien qui l'annonce. Résultat du déblocage des négociations avec le Hamas, le mouvement islamiste a enfin publié la liste complète des otages libérables lors de cette première phase de l'accord. En échange, l'armée israélienne va autoriser les dizaines de milliers de Gazaouis massés au corridor de Netzarim, cette bande de terre militarisée coupant la bande de Gaza en deux, à rentrer chez eux dans le Nord dès lundi matin. Israël et le Liban s'entendent pour prolonger l'accord jusqu'au 18 février, annonce de la Maison Blanche, délai rallongé de 3 semaines pour l'armée israélienne qui doit retirer ses forces du sud du Liban. Ce dimanche, 22 Libanais ont été tués sous le feu de soldats israéliens. C'est le bilan du ministère libanais de la Santé. Ils tentaient, comme des centaines d'habitants du sud, de rentrer dans leur village.
RFI, Radio France Internationale.
Quel avenir pour l'aide américaine dans le monde? Le flou demeure depuis la mise en pause des programmes d'aide américains pendant 3 mois. Le temps, précise le secrétaire d'État Marco Rubio, d'évaluer si ces aides sont conformes avec la politique de Donald Trump. Cette décision ne concerne pas l'aide alimentaire d'urgence. Elle épargne aussi l'Égypte et Israël. Mais la décision ne mentionne aucun statut particulier pour l'Ukraine, ce qui inquiète certains diplomates américains, Nicolas Feldman. Ils ont d'ailleurs interpellé l'administration Trump pour demander le maintien des aides à Kiev.
Dans les documents consultés par le Financial Times, les diplomates invoquent des questions de sécurité nationale et réclament une dérogation spéciale pour l'Ukraine. Nous ne savons pas à ce stade si cette demande sera approuvée, commente une source citée par le journal, mais il y a jusqu'à présent des signaux positifs en provenance de Washington. Le gel de l'aide américaine a en tout cas eu des conséquences directes en Ukraine, puisque dès samedi soir, certaines organisations ont eu pour ordre de cesser leurs activités. L'aide des États-Unis, plus de 70 milliards de dollars en 2022, finance toute une série de programmes de soutien en Ukraine, des écoles aux hôpitaux en passant par le développement économique. Un responsable ukrainien précise tout de même que l'aide militaire accordée à Kiev devrait-elle être maintenue. Sur ce volet, depuis le début de l'invasion russe du pays il y a bientôt 4 ans, les États-Unis ont fourni l'équivalent de 66 milliards de dollars d'aide à Kiev.
Nicolas Feldman, les États-Unis qui devraient voir prochainement l'avion de la présidence colombienne atterrir sur leur territoire, annonce du président colombien Gustavo Petro, qui souhaite ramener dignement les migrants colombiens expulsés du pays. Ce dimanche, Bogota a refoulé des avions militaires américains. Ils n'ont pas pu atterrir en Colombie. À leur bord, des migrants colombiens expulsés des États-Unis. En représailles, Donald Trump a décrété des droits de douane de 25% sur les biens importés de Colombie. Réponse en forme de miroir. Quelques heures plus tard, les produits américains importés en Colombie seront frappés de 25% de droits de douane. En Colombie, excusez-moi. 5h36 à New Delhi, l'Inde, qui célébrait ce dimanche 26 janvier sa fête nationale, un défilé spectaculaire pour commémorer l'adoption de la Constitution en 1950 et montrer la toute-puissance de New Delhi. Chaque année, des millions de patriotes se réunissent. Reportage Léa Ojal.
Une foule en liesse acclame sa nation. Des militaires défilent à pied sur des véhicules et même des chameaux. Drapeau indien en main, Kushal Joshi s'est levé à l'aube pour assister à cette fête nationale qu'il attend tous les ans avec impatience.
C'est mon pays et je suis vraiment heureux d'habiter là. Tout est incroyable ici, encore plus d'ailleurs lors de la fête nationale. Déjà quand j'étais petit, je rêvais de venir ici.
Dans l'immense rassemblement, Rota Gil s'est maquillé aux couleurs de l'Inde. Pour cet ingénieur de 35 ans venu en famille, le défilé militaire est l'occasion de montrer la toute-puissance de son pays.
On peut voir toutes les armes, les avions de chasse. C'est un grand jour pour moi d'assister d'aussi près à cette fête. J'ai attendu plus de 15 ans pour venir ici.
Comme le veut la tradition, l'Inde invite chaque année des dirigeants mondiaux à assister à ces célébrations du jour de la République. Pour cette édition, l'invité d'honneur est le nouveau président indonésien Prabowo Subianto. L'occasion pour New Delhi de se positionner comme l'une des principales puissances militaires de la région. Léa Ojal, New Delhi, RFI.
L'Irlande à présent, après la tempête Eowyn, l'alerte rouge dans le pays a duré moins de 24 heures de jeudi à vendredi. Assez néanmoins pour que ce phénomène qualifié de bombe météorologique fasse des ravages, et les opérations de nettoyage toujours en cours à travers l'île devraient coûter des centaines de millions d'euros, Clémence Pénard.
Des arbres déracinés sur les routes, des panneaux et autres débris volants. Les dégâts causés par la tempête Eowyn sont sans précédent et elle a aussi causé la mort d'un jeune homme vendredi matin au nord de l'Irlande après la chute d'un arbre sur sa voiture. Le Premier ministre Micheál Martin, tout juste élu la semaine dernière, a promis que le gouvernement apporterait son soutien aux personnes et commerces touchés, car plus de 300 000 foyers sont toujours privés d'électricité ce soir en Irlande et dans certaines zones, le rétablissement du courant pourrait prendre plus d'une semaine, a prévenu l'Agence nationale de l'énergie. Au plus fort des pannes qui ont suivi la tempête, ce sont près de 800 000 maisons qui se sont retrouvées dans le noir. 100 000 Irlandais attendent également encore que l'eau soit rétablie chez eux. Il faut dire que des rafales records ont été enregistrées dans l'ouest de l'Irlande jusqu'à 183 km à l'heure. Les Irlandais, priés de rester chez eux pendant le passage de la tempête, sont désormais appelés à la plus grande vigilance et pour cause, la tempête Herminia succède à Eowyn sans être toutefois aussi dévastatrice. Clémence Pénard, Dublin, RFI.
Et puis un mot de foot pour refermer votre journal. Marseille enchaîne un deuxième match sans victoire en fermeture de la 19e journée de Ligue 1. Battu à Nice 2-0. Et puis carton plein en Espagne pour le FC Barcelone. Victoire 7-1 à domicile contre Valence. RFI, il est presque 1h10 à Paris. 1h de moins en temps universel.